Chapitre 15. Bienfait rendu. Quand, après ces deux incidents, le calme fut rétabli, la tâche du jour s'accomplit tranquillement. Outre les grandes distributions d'aumônes, telles que celles que fit Saint-Laurent, il n'était pas rare, dans ces premiers âges de l'Église, de voir des fortunes entières données aux pauvres par ceux qui se retiraient du monde. L'admirable charité de l'Église apostolique de Jérusalem n'avait pas été un exemple stérile pour l'Église de Rome. Mais cette grande charité était plus naturellement suggérée quand l'Église se trouvait menacée d'une persécution et quand les chrétiens désignaient d'avance, par leur position aussi bien que par les circonstances, aux martyrs, voulaient, selon une expression familière, purifier leurs cœurs et leurs maisons pour se préparer à la lutte en se débarrassant de tout ce qui pouvait les attacher à la terre et devenir la proie d'un soldat impie au lieu d'être partagé en héritage aux pauvres. Le grand précepte de faire briller devant les hommes la lumière des bonnes œuvres, tandis que la main qui remplit la lampe d'huile demeure cachée et n'est aperçue que par celui-là seul qui lit dans les cœurs, ce grand précepte n'était pas oublié. L'argenterie et les bijoux d'une noble famille, publiquement évalués, vendus et leur prix distribués aux pauvres, étaient un exemple éclatant de charité qui consolait l'Église, animait d'une noble émulation les cœurs généreux, rendait les avares honteux d'eux-mêmes, touchait les catéchumènes et mettait des bénédictions et des prières sur les lèvres des pauvres. Et cependant, la main droite qui donnait restait ignorée de la main gauche, et l'humilité et la modestie du noble bienfaiteur demeuraient cachées dans le sein de Dieu, où il déposait ses trésors de la terre, qui devaient être rendus au centuple au donateur et payés avec usure par des trésors éternels. C'est un fait de ce genre qui vient s'accomplir aujourd'hui sous nos yeux. Quand tout fut préparé pour la distribution, le prêtre Denis, à qui on avait confié le soin des malades en sa qualité de médecin et qui avait succédé à Polycarpe dans le titre du saint pasteur, fit son entrée et alla s'asseoir sur un siège à une extrémité de la cour, puis il s'adressa ainsi à l'assemblée. « Chers frères, notre Dieu miséricordieux a touché le cœur d'un de nos charitables frères. Il a compassion de ses plus pauvres frères et se dépouille de ses biens en ce monde pour le nom du Christ. Qui est-il? Je ne sais et je ne cherche pas à le savoir. Il est de ceux qui n'aiment pas à placer leurs trésors là où la rouille les consume, où les voleurs peuvent les dérober, mais qui préfèrent, comme le bienheureux Laurent, qu'ils soient portés plus haut par les mains des pauvres du Christ dans les trésors du ciel. Accepté comme un don de Dieu qui a inspiré cette charité, la distribution qui va être faite et qui sera un secours utile dans les jours de tribulation qui vont se lever sur nous. Et comme c'est la seule chose qui nous soit demandée en retour, récitons tous l'oraison accoutumée que nous disons chaque jour pour ceux qui nous donnent ou nous font quelque bien. Pendant cette courte allocution, le pauvre Pancratius ne savait où porter ses regards. Il s'était blotti dans un coin, derrière les assistants, et Sébastien, le prenant en pitié, s'était placé devant lui et lui faisait un rempart de son corps. L'émotion du jeune homme faillit le trahir quand toute l'assemblée, élevant vers le ciel ses mains et ses regards, s'écria avec ferveur et comme d'une seule voix « Accordez la vie éternelle, ô Seigneur, à tous ceux qui en votre nom nous font du bien. Ainsi soit-il. » Rétribuere dignare, domine, omnibus nobi, bona facientibus prepter, nomen tuum, vitam aeternam. Amen. Les aumônes furent alors distribuées et elles surpassèrent l'attente générale. On servit un repas abondant à tous et un joyeux banquet couronna cette scène édifiante. Il était encore de bonne heure, un grand nombre d'assistants ne prirent pas de nourriture, car un festin plus délicieux et tout spirituel était préparé pour eux dans l'église titulaire du voisinage. Quand tout fut terminé, Cécilia insista pour voir son pauvre vieil estropié réintégré sain et sauf chez lui et pour lui porter sa pesante bourse de toile. Elle fut si bien intéressée par sa conversation enjouée qu'il fut tout étonné quand il reconnut qu'il était déjà arrivé à la porte de son pauvre mais propre logement. Sa jeune compagne aveugle lui mit alors la bourse dans la main et, se hâtant de lui souhaiter un heureux jour, elle s'éloigna si rapidement qu'elle fut bientôt hors de sa vue. Le sac paraissait bien plein, il se mit alors à compter son argent et trouva, à son grand étonnement, que sa part était doublée. Il compta encore et vit qu'il ne se trompait pas. À la première occasion, il demanda des explications au diacre Reparatus, mais il n'en put obtenir aucune. S'il avait vu Cécilia, quand elle eut détourné la rue, rire de tout son cœur, comme si elle avait joué un bon tour à quelqu'un et courant d'un pied si léger qu'il était évident qu'elle ne pouvait porter rien de lourd sur elle, il aurait bien vite trouvé l'explication de sa richesse inespérée.